Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Et on est de retour à 10h16 avec Fabien Libard, professeur associé à la faculté de génie. Bonjour, bonjour Fabien.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Ça va et vous?
Oui, oui. Donc, c'est ça, vous êtes en compagnie de mes collègues chroniqueurs, Enzo et Marc-Antoine.
Et bonjour Fabien.
Bonjour.
Donc, bonjour à tous.
J'avoue que j'ai lu ma mise en contexte là, qui expliquait un petit peu ce que vous allez nous parler, mais je vais vraiment vous le demander, si vous êtes capable de nous synthétiser un petit peu, c'est quoi? C'est quoi du calcul neuromorphique pour être sûr que justement nos utilisateurs soient tous sur la même longueur d'onde?
Alors bon, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur, mais c'est juste le mot. Le calcul neuromorphique, en réalité, c'est essayer de regarder comment le cerveau traite l'information et utiliser ces principes-là pour après faire des systèmes de traitement de l'information, donc des ordinateurs, tout ce que vous allez avoir dans votre environnement, tels que les téléphones, etc., qui vont vous permettre de traiter l'information en utilisant les mêmes principes de base de traitement de l'information. Donc c'est à la fois, c'est quelque chose qui se fait au niveau de l'algorithme, du software, par exemple, comprendre c'est quoi le codage de l'information avec des spikes, par exemple, c'est ce qu'on a dans le cerveau, la manière dont les neurones communiquent, et puis de l'autre côté, c'est la partie hardware, donc la partie matérielle, quel système on utilise pour faire fonctionner ces systèmes-là. Donc ça peut être des caméras, ça peut être des microphones qui s'inspirent de la biologie, ça peut être des ordinateurs qui s'inspirent de la biologie pour faire des réseaux de neurones, par exemple.
C'est parfait, merci beaucoup pour cette explication claire et précise. Je dirais même qu'elle était limpide. Ce que je voudrais ensuite aller vous parler, c'est que on vous reçoit aujourd'hui en fait pour parler de la nouvelle chaire MEI du ministre, ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie. Donc une nouvelle chaire. Nouvelle chaire, c'est ça, en calcul neuromorphique de l'Université de Sherbrooke, qui va être financée par justement ce ministère-là.
Oui, tout à fait.
Et donc, qu'est-ce que ça fait pour vous, justement, qu'on ait justement ce financement-là?
Alors, en fait, c'est une volonté un petit peu politique, parce que le ministère de l'économie de l'innovation et de l'énergie, il y a quand même des décisions politiques derrière, c'est de vouloir positionner un peu, au niveau de l'Université de Sherbrooke, vouloir positionner une thématique. Donc là, on parle de la thématique qui est l'électronique neuromorphique. D'un point de vue plus global, si on dézoome un peu, ça, c'est un peu en résonance avec tout ce qui se passe à Montréal. Vous avez à Montréal, il y a toute la partie IA qui est très foisonnante, où il se passe beaucoup de choses. L'IA à Montréal, c'est principalement avec des réseaux de neurones classiques. Et là, l'idée à Sherbrooke, ce serait de se démarquer et d'être complémentaire avec une IA qui soit plus matérielle, ça veut dire avec des vrais systèmes dédiés pour implémenter ces algorithmes, et ces algorithmes qui sont notamment beaucoup plus bio-inspirés que ce qu'on retrouve dans l'IA classique.
Okay,
donc ça, voilà.
Oui. Donc, quand vous voulez dire bio-inspiré, c'est ça. Donc, ça va être plus... Est-ce que c'est plus concret à la fin de la journée? Est-ce que...
Alors, c'est à la fois plus concret parce qu'il y a un vrai substrat physique. Ça veut dire ce que j'appelle le substrat physique, c'est quand on fait, par exemple, un algorithme de machine learning, c'est des réseaux de neurones artificiels. À l'heure actuelle, vous en avez partout, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, mais c'est pas du matériel qui est dédié pour ça.
Okay.
Quand on va vouloir faire des choses neuromorphiques qui vont être beaucoup plus bio-inspirées, donc qui vont vraiment essayer de reproduire les ingrédients de la biologie, là, on va être obligé de fabriquer des systèmes dédiés qui vont vraiment reproduire les neurones dynamiques, les synapses et les mécanismes qu'on a au niveau des synapses sur de l'électronique. Donc là, ça veut dire qu'à la fin de la journée, ce sera beaucoup plus concret parce qu'on aura effectivement un objet qui reproduira ces fonctions-là. Et le gros avantage, c'est que c'est a priori énergétiquement, c'est très très favorable. C'est beaucoup moins consommateur d'énergie. L'inconvénient, c'est que c'est très dédié. Ça veut dire que ce hardware-là pourra faire qu'une seule application neuromorphique pour laquelle il sera designé. Ce ne sera pas quelque chose de générique comme les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui.
Je comprends très bien. Et en fait, mon collègue Marc-Antoine, là, il y avait une petite question pour vous, donc j'y laisserai la parole.
Merci, Jérémy. Bonjour, Monsieur Alibar. Quels sont vos principaux mandats de recherche à la chaire MEI en calcul neuromorphique?
Alors, les mandats, c'est... Alors, nous, typiquement, on fait de la recherche académique. Hein, donc, ça veut dire que on a toujours une motivation derrière qui va être de pousser un peu la connaissance de ces problèmes-là et puis d'essayer de générer de nouvelles idées notamment. On n'est pas forcément très orienté a priori vers des applications ou vers la mise sur le marché par exemple, mais je pense que notre positionnement c'est vraiment de faire cette jonction, donc on récupérer les concepts qui sont très amont, qui des concepts qui sont encore à explorer, qui sont encore à découvrir sur comment on code l'information par exemple, ou comment fonctionnent les réseaux de neurones en biologie par exemple aussi, et une fois qu'on utilise ces concepts-là, on peut penser les transférer vers des applications. Donc là, c'est notre travail, c'est le travail de passeur, de récupérer ces idées-là, puis de les amener au niveau de la maturation pour que ce soit utilisé par des industries après, par exemple, pour faire des systèmes de caméras, des systèmes de microphones, etc.
Passionnant, merci beaucoup. Je me présente, Enzo, chroniqueur de l'émission. Bonjour, bonjour Fabien, bonjour Monsieur Alibar.
Bonjour.
Malheureusement, je sais que vous devez nous quitter à 30 et moi j'aurais pu parler pendant des heures de ce sujet-là. On est tous les trois étudiants en politique, mais je suis très passionné par l'IA, c'est une vraie révolution. Je pense que si on est un peu curieux, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais concernant l'IA, il y a aussi la question écologique qui va avec et le coût énergétique du développement de l'IA. Mais moi, la question que je voulais me poser sur les peu de renseignements que j'ai, c'est que a priori, justement, la neuromorphique optique serait la clé d'une IA éco-responsable. Et moi, je sais que l'université de Sherbrooke, particulièrement, est très intéressée et très impliquée sur la question environnementale. Et je voulais un peu traiter de cette question-là aussi. Comment la neuromorphique, finalement, pourrait adresser ces points concernant la question écologique, finalement.
Oui. Ben c'est une super question et alors ça soulève pas mal de choses. J'ai certainement pas la prétention d'avoir une réponse très tranchée là-dessus. Et on pourrait en reparler pendant des heures, effectivement, ce sera peut-être une prochaine fois.
Ah ouais, avec plaisir.
Derrière, il y a quand même toute cette question qui est comment la technologie peut soutenir une transition écologique ou bien soutenir une transition écologique ou au moins minimiser l'impact qu'on a sur la nature. Ça, cette question-là, on n'a pas vraiment de réponse claire à l'heure actuelle. On essaye juste de trouver soit des stratégies qui minimisent ou de contourner le problème ou de ralentir, de tirer les freins, typiquement. Donc dans ce cadre-là, une fois que ça, on s'entend qu'il y a encore une vraie question à répondre. Nous, le gros intérêt de la partie neuromorphique, c'est que je vous parlais d'un matériel dédié. Ça veut dire que effectivement, il faudra quand même fabriquer ces circuits-là. Et ça a un impact. Et il faut réfléchir à est-ce qu'on a besoin de les fabriquer? Pourquoi on les fabrique? C'est-à-dire, quelle est l'application qui va être valable? Si c'est, par exemple, pour amener, augmenter la qualité de vie des personnes, oui, ça va être valable. Principalement pour les personnes qui vont avoir on peut penser aux prothèses, par exemple. Donc, on pourrait imaginer avoir des systèmes neuromorphiques qui pourraient permettre d'avoir des prothèses plus performantes. Là, on voit bien l'intérêt et ça se justifie complètement. Bon, si c'est pour mettre une application sur un téléphone pour pouvoir traiter plus de flux, la justification est moins claire. Mais si on dépasse la question de l'objectif, intrinsèquement quand même dans ce que je mentionnais avant, le fait d'avoir un matériel qui est dédié, ça veut dire qu'on a des choses qui sont énergétiquement beaucoup moins consommatrices. Et notamment avec un concept qui est très simple, c'est que si vous prenez votre téléphone et que vous voulez faire rouler un algorithme de machine learning, par exemple de réseau de neurones classique, vous avez toute une partie que vous voyez pas. Vous voyez, vous, la batterie de votre téléphone, mais ce que vous voyez pas, c'est toutes les données que vous envoyez sur des fermes de calcul qui, elles, processent cette information, font rouler les modèles qui vont vous permettre de générer les réseaux de neurones pour l'application que vous cherchez, par exemple de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de son, de la traduction de texte, par exemple. Tout ça, c'est fait sur des fermes de calcul qui vous renvoient après l'information et que vous avez sur votre téléphone. Ce que vous avez vu, c'est la batterie de votre téléphone. Ce que vous n'avez pas vu, c'est tout cet échange d'informations qui va vers des grandes centrales de calcul. Et ça, c'est un gouffre énorme au niveau énergétique. L'idée, c'est que le calcul neuromorphique, vu qu'on fabrique des substrats dédiés, on fabrique du matériel dédié qui est très spécialisé, pour des applications données, ça permet d'éviter d'avoir à transférer toutes ces informations parce que le calcul se fait sur les objets qu'on embarque. Notamment, on peut penser à des drones, on peut penser à des prothèses, on peut penser à des réseaux de capteurs qui doivent enregistrer sur des temps longs des changements environnementaux, par exemple. Tout ça, on n'a pas besoin d'envoyer forcément l'information sur des centres de calcul. On pourrait traiter l'information localement. Et nous, c'est ce qu'on propose de faire. Et dans ce contexte-là, c'est pas une solution, mais ça minimisera grandement les coûts énergétiques.
Passionnant, merci beaucoup.
Je vois que nous reste quelques minutes à l'entrevue, donc je ne sais pas si vous aviez peut-être des commentaires ou justement un mot de fin peut-être pour nos auditeurs, ou du moins un endroit où est-ce que les gens vont pouvoir suivre ce que vous faites un petit peu, comment qui se déroule justement ce projet-là justement.
Sur, de la chaire.
De la chaire, exact. MEI, ouais.
Alors, le centre névralgique qu'on a ici à Sherbrooke, c'est le 3IT, donc c'est l'Institut d'innovation technologique, qui se trouve juste à côté de l'université. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'autre côté du campus, donc ça, vous ne pouvez pas le trouver sur le campus, ça prend de sortir du campus et de venir nous rejoindre sur 3000 boulevard de l'université. Sur le site du 3IT, vous aurez plein d'informations qui suivent un petit peu tout ce qui se passe. On avait notamment ce mois-ci, on a le mois du neuromorphique, on avait plusieurs séminaires qui se faisaient ici au 3IT. On termine avec une session poster qui aura lieu en fin de semaine, là, mercredi 28, où on des temps d'échange autour du neuromorphique. Donc c'est le 3IT, c'est un espace qui est ouvert aussi pour les étudiants. Donc n'hésitez pas, pour les étudiants qui sont intéressés, à venir faire un petit crochet par là. Après, principalement, ce sera les systèmes de communication du 3IT qui seront utilisés et sur lesquels je pense que vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés. Ce sera par exemple les papiers qui seront publiés ou bien les annonces de nouvelles collaborations, de nouveaux projets qui émergent qui peuvent être suivis au niveau du 3IT.
Bah on invite tous nos éditeurs à se renseigner puis sur ces sites et ces réseaux-là. Puis on rappelle, du coup, demain de 16h à 18h, session de poster sur la neuromorphique au 3IT.
C'est ça.
Pour tous ceux que ça intéresse.
Merci beaucoup. Un petit mot de fin, oui. C'est que pour mentionner aussi, au 3IT, on a un laboratoire qui s'appelle le LN2, qui est un laboratoire international qui est en collaboration entre la France et le Québec, et dans lesquels on a plein de programmes qui sont super, qui sont vraiment passionnants pour les étudiants, d'échanges d'étudiants avec la France pour faire des cursus doubles Québec-France. Et donc je vous invite aussi à aller voir ça, c'est pour ceux qui seraient intéressés à tenter l'expérience.
Merci à vous. Malgré le peu de temps qu'on avait, c'était un plaisir de parler de ces sujets-là.
Mais oui, merci beaucoup, M. Alibar.
On a vraiment plaisir de se reprendre une prochaine fois pour étendre un peu la discussion.
Ah, oui, clairement. Donc, pour tous nos auditeurs, en fait, on va vous laisser une petite pause musicale et on vous revient ensuite avec une petite chronique de Marc-Antoine, regard sur l'aide militaire canadienne en Ukraine. Donc, on vous laisse là-dessus.